remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8, tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Remue Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Ondes Femmes, c'est comme tous les mercredis en direct de 17h jusqu'à 20h. Ensuite, de la musique de femmes, des paroles de femmes. Aujourd'hui, dans Remue Ménage, eh bien, tout de suite pour commencer, je vous propose d'entendre une interview que j'ai pu réaliser la semaine passée au moment du vernissage d'une exposition qui a pour titre Une sécurité illusoire et qui se propose de définir l'exploitation sexuelle des filles. Exposition qui a été créée par le Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes, qui a été conçue par Yolanda Bertosian, Marie Leiser, Yvonne Portenier, qui toutes les trois sont expertes de l'Association pour la prévention de l'exploitation sexuelle des filles et des garçons. Cette exposition a lieu à l'école du Bon Secours, qui se trouve au chemin Thury à Genève, c'est-à-dire en haut sur le plateau de Champel à Genève. L'exposition a débuté le 16 mars et elle se prolonge jusqu'au 4 avril prochain. J'ai pensé qu'il était intéressant de rencontrer une des représentantes de chaque association qui est co-organisatrice de cette exposition, à savoir le Bureau de l'égalité des droits entre femmes et hommes à Genève, l'École du Bon Secours, Viol Secours, association que nous connaissons bien dans Ondes Femmes, et puis encore deux autres associations, Pro Juventute et Terre des Hommes Suisse Genève. En l'occurrence, était présente le soir du vernissage Lucienne Gillot, qui a, pour le Bureau de l'égalité des droits entre femmes et hommes à Genève, organisé cette exposition. Christine Pernaud, de l'École des soins infirmiers de sage-femme de Bon Secours, et Véronique Ducret, de Viol Secours. Je les ai rencontrées toutes les trois au sein même de l'exposition. Alors peut-être comme première chose, j'aimerais savoir comment l'initiative de cette exposition s'est prise. Est-ce que tout de suite conjointement, Bon Secours, Viol Secours et le Bureau de l'égalité de Genève entre mes femmes, vous avez pris la décision de travailler ensemble? Lucienne Gillot, vous voulez nous répondre?
Oui, alors je dois dire que l'idée est venue du Bureau de l'égalité. Nous avions été sollicités par nos collègues de Suisse allemande, de Suisse alémanique, qui avaient mis sur pied cette exposition. Et à ce moment-là, nous avons essayé de trouver des partenaires pour travailler avec nous sur ce thème. On ne voulait pas partir seul sur un thème si important. Et c'est là que nous sommes associés avec le Bon Secours, avec Viol Secours, avec Pro Juventute, avec Terre des Hommes, Genève.
Alors pourquoi, bon, Viol Secours ça semble évident, mais pourquoi Bon Secours, pourquoi Pro Juventute, ça c'est déjà aussi plus clair, et puis pourquoi Terre des Hommes?
Alors au fond ça s'est fait au fil des collaborations qui se sont présentées spontanément. Madame Pernaud du Bon Secours m'a téléphoné à un moment donné, elle avait vu que cette exposition existait et elle avait très envie que le Bon Secours l'ait. Et elle m'a téléphoné pour me demander si c'était possible de l'organiser au Bon Secours. Alors là, c'est fait spontanément comme cela. Pro Juventute, nous, étant donné leur intérêt pour les problèmes de l'enfance, nous les avions contactés, ils se sont déclarés d'accord de travailler avec nous. Et puis Terre des Hommes aussi, je ne sais plus exactement. Je crois que nous ne les avions pas contactés directement, mais Terre des Hommes a appris l'existence de ce groupe qui travaille à mettre sur pied cette exposition et a pris contact avec le Bureau de l'égalité. C'est comme ça que les choses sont parties.
Alors juste avant de demander à Madame Pernaud pourquoi vouloir cette exposition à Bon Secours en particulier, encore une question à Lucienne Gillot. Vous disiez l'exposition existait déjà, donc elle avait été conçue par qui?
Alors, l'exposition a été conçue par trois personnes, membres d'un groupe qui s'appelle Limita et qui est un groupe de prévention des abus sexuels à l'égard des enfants en Suisse alémanique. Donc, le Bureau fédéral de l'égalité a financé l'exposition et a mandaté ces trois experts de Limita pour mettre sur pied, pour concevoir l'exposition.
Alors, Christine Pernaud, pourquoi avoir demandé que l'exposition ait lieu au sein de Bonsecours, et pourquoi en tant que Bonsecours êtes-vous intéressé à avoir cette exposition?
Alors, premièrement parce que en fait c'était une exposition qui sensibilisait toute une population, mais qui était un problème qu'on rencontre en tant que sage-femme ou en tant qu'infirmière. Bon, là je parle par rapport à l'école, moi je suis sage-femme personnellement, et c'est vrai que c'était un aspect de la profession qui n'est pas négligeable, auquel on est attentif en tant que sage-femme, puisqu'on prépare les parents à leur parentalité. Et je pense que pour moi, la prévention, ça peut déjà commencer là, et l'école était un lieu au niveau de la structure qui permettait l'accueil de l'exposition, puisqu'elle est quand même relativement grande. Vous aviez aussi, avec le Bureau d'égalité, avec tout le collectif, je dirais, cherché un local. Bon, ça s'est trouvé qu'ici, il y avait l'espace également, ce qui fait que, je dirais, qu'entre les différentes propositions, envies qui se sont conjointes, on a pu monter cette exposition.
Mais l'école de Bonsecours n'est pas particulièrement un lieu public, alors comment vous espérez que les gens viennent dans un lieu qui d'habitude ils ne fréquentent pas du tout, en tout cas n'ont pas l'habitude de fréquenter comme lieu commun public à tout le monde?
Effectivement, mais je ne sais pas si une école est un lieu public en lui-même ou pas, dans la mesure où je dirais que ce soit des élèves, que ce soit des étudiants, la facilité d'accès d'une école est quand même... je dirais quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis le fait qu'on se situe en tant que professionnel de santé, pour nous, était une considération qui permettait de se poser la question à un autre niveau que simplement en tant qu'adulte.
Lucienne Gillot, pour le Bureau de l'égalité, c'était clair que l'objectif était de toucher un maximum de gens les plus différents les uns des autres, les écoles aussi peut-être, etc.
Oui, l'objectif était à la fois de toucher un très vaste public, tous les parents notamment devraient être concernés par cela, mais aussi des groupes professionnels plus directement intéressés par cette question, comme des enseignants, enseignantes, éducateurs, éducatrices, travailleurs sociaux, travailleuses sociales, psychologues, conseillers en orientation, etc. Médecins, infirmières, on pourrait ajouter encore bien des noms sur la liste.
Et comment vous espérez que tous ces gens vont être amenés à venir voir l'exposition? Va-t-il y avoir une campagne de pub ciblée pour que vraiment les gens suivent? En plus, l'exposition reste brièvement, jusqu'au 4 avril, c'est court. Comment les gens vont vraiment pouvoir venir visiter dans un temps si bref l'exposition?
Alors, nous avons quand même envoyé à peu près 1000 lettres à différents milieux concernés, les enseignants, par exemple, des psychologues, des milieux médicaux, enfin, tous les milieux touchés. Nous leur avons envoyé une lettre et en plus, nous espérons que les journaux vont répercuter, les médias vont répercuter cette exposition. Nous avons fait une conférence de presse cet après-midi et nous espérons vivement que les gens vont être intéressés et vont venir.
Peut-être pour compléter, aujourd'hui il y avait des éducateurs de la santé du service de santé jeunesse, donc qui sont venus voir l'exposition parce que un de leurs buts c'est d'en parler dans leur cours d'éducation sexuelle. Donc je crois qu'il y a les choses suivent. Hein. Il y a également des travailleurs sociaux de différentes écoles qui sont venus pour voir comment répercuter l'exposition dans les écoles. Je pense que l'ouverture, elle est présente. Hein.
Est-ce que l'exposition va circuler peut-être, ce qui fera aussi qu'elle sera encore plus vue, continuer à circuler puisqu'elle existait déjà?
Alors, elle circule déjà, elle a déjà pas mal circulé en Suisse alémanique, elle est allée à Bâle, elle va aller dès vendredi prochain à Zurich, elle est allée à Bienne, en Suisse romande et dans sept autres lieux en Suisse alémanique. En Suisse romande, les choses semblent un peu plus difficiles. Pour l'instant, il n'y a que Genève qui s'est vraiment engagée. À part ça, je crois qu'il n'y a rien pour l'instant d'autre de prévu, mais j'espère vivement qu'elle pourra un peu aller à l'heure. Bienne et Fribourg, mais c'est sûr.
Sont en projet.
Il y a des obstacles particuliers au fait qu'elles ne circulent pas ou bien c'est un hasard de disponibilité?
Écoutez, je crois que pour faire venir une exposition comme ça, il faut une très forte motivation. C'est une exposition qui coûte, elle n'est pas donnée. Il faut des moyens financiers, il faut des forces. Donc il faut qu'il y ait des milieux suffisamment motivés pour la mettre sur pied. Et je pense quand même qu'en Suisse romande, il y a eu moins de milieux motivés qu'en Suisse alémanique.
Véronique Ducret, vous appartenez à l'association Viol Secours. Vous, depuis longtemps, vous travaillez sur ces questions-là. Vous êtes hyper motivée, c'est le cas de dire, depuis un bon moment. Est-ce que vous êtes contente de voir que, très publiquement, enfin, on donne de l'importance à la question des violences sexuelles contre les femmes et les jeunes filles et les petites filles ?
Bon, ça, évidemment, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on a pu se mettre à plusieurs autour d'une table, donc différentes associations, l'école Bon Secours, le bureau de l'égalité, et travailler ensemble à l'organisation de cette exposition et de différents débats. Parce que, bon, Viol Secours est en fait une petite association sur Genève, avec d'immenses projets, et malheureusement, on n'a pas toujours les forces suffisantes pour mettre sur pied tous ces projets. Et je crois que un de nos objectifs, c'est qu'il y ait des relais, que ce qu'on a envie de faire se fasse aussi par d'autres.
Est-ce que, à vous trois, vous pourriez nous donner peut-être les lignes directrices de l'exposition ? Parce qu'il y a des accents particuliers qui sont mis, il y a une forme particulière, il y a des dessins, il y a beaucoup de photos, on a à la fois des textes témoignages, il y a des textes explicatifs, enfin, est-ce qu'il y a des lignes directrices principales ? Lucienne Gio.
Oui, alors une des lignes directrices notamment, c'est d'avoir conçu cette exposition sous la forme d'un appartement avec différentes pièces. Il y a la cuisine, il y a la chambre des enfants, la chambre des parents, le salon. Et l'idée était justement de faire sentir à travers des objets, à travers des images, à travers des pièces, que cet endroit qui devrait être très confortable pour l'enfant qu'est la maison, eh bien c'est là au fond où les petites filles courent le plus de risques d'être agressées sexuellement. Hein, parce qu'il faut bien dire, il y a un mythe qui court. On pense en général que ce sont des inconnus qui agressent les petites filles au coin du bois. Et en fait, toutes les études et les statistiques montrent que ce n'est pas le cas. Ceci est un mythe. Dans 90% des cas, l'enfant connaît son agresseur. Et dans la plupart des cas, donc, il s'agit d'un homme appartenant à son entourage immédiat. Ça peut être le père, le beau-père, l'oncle, le cousin, l'ami, etc. Ça, je crois que c'est une des grandes lignes directrices de l'expo, d'avoir montré que c'est à l'intérieur de la maison que les enfants courent le plus de risques.
Christine Pernaud, il y a une des lignes, un des aspects de l'exposition que vous aimeriez relever ?
Ce que je relèverais, c'est surtout l'aspect prévention, où je crois que par l'information qu'on peut amener, la sensibilisation qu'on peut apporter auprès de la population par rapport à ce problème, ça permettra certainement, je pense, tout du moins je l'espère, de faire peut-être plus émerger les problématiques qui se posent par rapport à ces abus sexuels, et que l'expression même de ces abus puisse être quelque chose de plus facilitant, dans la mesure où c'est quelque chose d'assez enfermé, quelque chose qui est renfermé par rapport au... on se tait par rapport à ce problème, et je pense que là, on va peut-être permettre à certaines personnes de pouvoir mieux s'exprimer par rapport à ça.
Véronique Ducret.
Je crois que ce qui m'a le plus touchée dans cette exposition, ce sont les témoignages de femmes qui parlent en tant qu'adultes de ce qu'elles ont vécu petites filles. Et on sent que ces témoignages sont tellement forts que le problème est toujours tellement, tellement présent. Et moi, c'est ça qui me motive, c'est de voir cette douleur. Et que cette douleur, on ne peut pas rester indifférent, et qu'il faut faire quelque chose. Et justement, tout à l'heure, je discutais avec une personne qui a elle-même subi l'inceste et qui me disait, j'ai toujours cru que ce que j'avais vécu, elle a 30 ans cette femme, j'ai toujours cru que ce que j'avais vécu c'était normal, et il a fallu que je lise des témoignages pour me dire ah ben oui, je suis pas la seule, c'est quelque chose quand même qui est pas normal.
Donc finalement, par rapport à ce dont vous parlez maintenant, Véronique Ducret, l'exposition va autant servir à prévenir, comme vous disiez Christine Pernaud, qu'à essayer de faire résoudre des problèmes qui sont très anciens à des femmes ayant subi des violences quand elles étaient petites filles.
Alors, effectivement, justement, Viol Secours, on a fait de la publicité auprès des femmes qui viennent nous trouver, et c'est fort probable que ça puisse faire le plus grand bien à certaines femmes qui retrouvent des problèmes qu'elles vivent tous les jours.
Juste à côté de nous, tout à l'heure, plus maintenant à la seconde mai, mais il y avait un papa qui visiblement lisait les panneaux à ses deux petites filles. Bon, il devait leur traduire en plus, parce que c'était pas de langue française. Mais donc l'exposition n'est pas véritablement destinée aux enfants eux-mêmes, puisque certains peut-être auront de la difficulté à lire. Comment vous avez imaginé cette interaction entre les parents et les enfants qui emmèneraient les enfants ici, Lucienne Gio?
Alors, effectivement, l'exposition n'est pas destinée prioritairement aux enfants. Il y a beaucoup de textes, ça pose des questions importantes. Et ce n'est pas, je pense, accessible à un enfant d'en dessous de 12-13 ans. Donc, elle s'adresse prioritairement à des adolescents et à des adultes. Mais je veux dire que les parents ont quand même un rôle très important dans la prévention. Quand on dit, par exemple, il faut apprendre à vos enfants, il faut d'abord respecter vos enfants, il faut leur apprendre l'autonomie, il faut leur apprendre à dire non. Ce sont les parents qui lisent, mais s'ils arrivent à le faire passer dans leurs actes et dans leur rapport avec les enfants, je pense qu'ils vont faire une excellente prévention.
Et puis pour les enfants, alors je vois, parce que avec plaisir, que l'on va remontrer le spectacle Bouche décousue à la maison de quartier vendredi soir à 19h et samedi 20 mars à 17h. C'est aussi une action conjuguée dans l'organisation autour de cette exposition, ou est-ce un hasard que la maison de quartier de la Jonction décide de programmer ce spectacle que certains ont peut-être déjà vu, mais d'autres pas encore?
Alors en fait, la maison de quartier de la Jonction organise une quinzaine sur le thème de la violence qui devait tomber à peu près au même moment. Finalement, ça a été repoussé et la maison de quartier, dans ce contexte, a essayé de trouver une pièce qui convienne à la problématique de la violence et a trouvé ce Bouche décousue. Mais comme la pièce, les dernières fois où on pourra la voir, il faut vraiment profiter. Après, ils arrêtent avec ce spectacle. La maison de quartier de la Jonction l'a fait venir un peu plus vite que la quinzaine qui est prévue. Donc ce n'est pas directement coordonné, si vous voulez, mais finalement nous avons travaillé ensemble et nous faisons de la pub pour eux, puisque c'est un même combat.
Et que donc, elles ont observé que les femmes venaient passer...
Voilà, alors c'est le calendrier de l'exposition que je vous répète. Cette exposition donc qui a pour titre « Une sécurité illusoire sur l'exploitation sexuelle des filles », eh bien est ouverte encore donc jusqu'au 4 avril 1993. Elle est présentée dans les sous-sols, enfin l'étage inférieur plutôt, de l'école Le Bon Secours qui se trouve au chemin Thury numéro 4 à Genève, sur le plateau de Champel. Vous pouvez y aller du mardi au vendredi de 12h à 17h et du samedi au dimanche de 14h à 17h. Comme vous l'avez remarqué, c'est fermé le lundi. Pendant cette exposition, une série de débats a été organisée conjointement par les associations organisatrices. Il y a déjà eu un premier débat le 19 mars dernier avec pour titre « Témoignages de femmes rompre le silence » qui était organisé par Viol Secours. Le 23 mars, c'est-à-dire hier soir, il y avait une initiation à l'autodéfense pour les femmes. Et puis, le 30 mars prochain, à 20h30, un nouveau débat sur le thème « L'enfance bafouée, la réalité cachée des abus sexuels, constat et prévention ». Et ce sera tout d'abord une table ronde avec Madame Florence Brousse, qui travaille au Bureau international catholique de l'enfance. Il y aura le docteur Jean-Luc Mounou, qui est du service de santé de la jeunesse à Genève. Madame Joëlle Huser-Studer, membre active de l'Association pour la prévention de l'exploitation des filles et des garçons en Suisse, donc l'IMITA, dont nous parlions tout à l'heure. Le débat sera animé par la journaliste Brigitte Montilleri. Alors, retenez cette date, 30 mars, 20h30, Bon Secours, chemin Thury, Genève, plateau de Champel, dans le cadre de l'exposition Une sécurité illusoire sur l'exploitation sexuelle des filles. Et comme le disait Christine Pernaud, c'est l'occasion pour les parents, pour les adolescents, pour les instituteurs, les professeurs, etc., de se renseigner pour peut-être prévenir et en tout cas permettre la discussion avec les jeunes filles et les garçons. Parce que je crois que si, dans le cadre d'une éducation égalitaire, eh bien peut-être un certain nombre de ces problèmes pourraient être éviter.
J'allais prendre un café, une idée, dans le hasard de chercher la la la. Avec aplomb s'il vous plaît. Ah, comment dire, était le héros. Comment vous dire qu'il est beau. Dire, était le héros. Comment vous dire qu'il est beau. Il s'est mis à marcher modéré, au trouver comme un éclair. Puis ma main énervée est trouvée de la matière dans les manières. Un regard provoqué, la la la. Oui, mais tout ça, qu'est-ce que c'est? Un baiser rapproché, la la la. Avec aplomb, s'il vous plaît. Ah, comment vous dire, t'es le héros. Comment vous dire, quand il est beau. Non, 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 dire, t'es le héros. Comment vous dire, quand il est beau.
Des plaisirs, comment dire, cœur tambourine et en sourdine. Ce qu'on peut ressentir, à vrai dire, ça se devine, on imagine. Mais comment vous dire, t'es le héros. Comment vous dire, comme il est beau. Aïe, 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 dire, t'es le héros. Comment vous dire, comme il est beau.
C'était Geshpati, comment le dire. Dans cette deuxième partie d'émission, eh bien, je vous propose que nous retrouvions notre revue des revues Planète Femme, comme nous essayons de le faire à peu près une fois tous les deux ou trois mois, c'est-à-dire de retrouver les articles qui nous ont intéressés dans l'un ou l'autre journal, hebdomadaire, quotidien, que nous feuilletons et qui concernent les femmes. Parce qu'il y a, heureusement, de nombreux journalistes, hommes ou femmes, qui écrivent des sujets concernant les femmes et qui donnent des informations intéressantes. Alors, dans un premier temps, quelques nouvelles brèves trouvées dans les journaux. Par exemple, cet article de Pascal Frey dans la Tribune de Genève qui a pour titre « Les reines du polar sont souvent cruelles ». Rappelez-vous, avec Viviane Gonick, grande spécialiste des reines du polar, nous vous avions fait une sorte d'aperçu de tout ce qui existe. Eh bien, cet article nous propose trois nouvelles écrivaines, trois nouvelles reines du polar, trois styles de romans policiers différents et avec à la clé, bien sûr, comme toujours, de nombreux cadavres. Alors, le roman policier est un genre littéraire dans lequel les femmes ont toujours excellé. Par exemple, Joyce Anne Schneider qui signe un nouveau livre qui a pour titre « Baignade interdite » qui est plein, la baignade pleine de suspense. Que nouvelle parution qu'a applaudi Mary Higgins Clark lors de sa sortie aux États-Unis. Mary Higgins Clark, qui est vraiment la reine des reines. Et ce n'est pas étonnant que Joyce soit la digne héritière de Mary. On y retrouve le même univers, la même manière d'emmener le lecteur sur une fausse piste, tout en lui donnant en pâture quelques indices. Dans ce roman, on y trouve une jeune femme, Amanda, qui vient de réintégrer la maison où elle a passé son enfance et près de laquelle sa mère s'est noyée. Accident, suicide ou assassinat ? Point d'interrogation. 20 ans après, au même endroit, l'une de ses meilleures amies meurt noyée, elle aussi. Inutile de dire que dans les romans policiers, il n'y a jamais de coïncidence. Au fil des pages, Joyce Anne Schneider maintient une tension sans relâche. Autre roman policier d'une des reines, Ruth Rendell, qui, elle, écrit un livre qui s'appelle « Fausse route ». Elle a bâti sa réputation, elle, sur son intérêt pour les psychopathes. S'il fallait lui trouver une marraine, eh bien, ce serait plutôt Patricia Highsmith, tant elles ont toutes les deux une passion pour les gens qui flirtent avec la folie. Et pourtant, dans cette fausse route, ce nouveau livre, elle privilégie peut-être un peu trop le côté psychologique au détriment de l'aspect policier. Et le livre souffre un peu de longueur. Ça, c'est l'avis de l'auteur de l'article, Pascal Frey, je vous le rappelle. Pascal Le Frey. Guy, un personnage étranger ambigu dans ce livre Fausse route écrit par Ruth Rendell, est amoureux de Léonora depuis des années. Ils ont pris l'habitude de se voir tous les samedis, les autres jours de la semaine. Il la poursuit sans relâche, persuadé qu'elle finira par l'épouser. Il ferait n'importe quoi pour arriver à ses fins. La conclusion est complètement inattendue et nous n'allons évidemment pas vous la donner. Sue Grafton, quant à elle, continue à épeler son alphabet par l'intermédiaire de Kinsey Millhone. Avec son livre A comme alibi, voici B après un premier livre, qui s'appelait A comme alibi. Et bien naturellement, voici B comme brûlé. Et bientôt, ce sera C comme cadavre. Et dans ce second roman, Kinsey reçoit la visite d'une femme élégante qui recherche sa sœur Elaine. Mais personne ne l'a plus revue depuis des mois, à tel point que Kinsey se demande si elle est encore vivante. La détective ne va pas ménager ses efforts pour la retrouver. Et le charme de ses livres, tous les uns comme les autres, très bien construits, tient également au caractère de leurs héroïnes, que l'on retrouve d'une lettre à l'autre dans la plus pure tradition du roman noir américain. Alors voilà, je vous rappelle les trois livres. « Baignade interdite », écrite par Joyce Anne Schneider,